Je voudrais qu'ensemble nous puissions faire deux premières lectures. Et la première se trouve dans le psaume 90. Psaume 90. Un psaume de, pas de David, mais de Moïse. Moïse aussi a écrit des psaumes, et oui. Et nous lisons au verset 12, un simple verset, mais qui est important que nous puissions partager. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Proverbe, chapitre 13, verset 16. Proverbe, chapitre 13, et le verset 16. Ce sera ce verset qui sera le centre de ce message. Il est dit, « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de la folie. » Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. Cet après-midi, je voudrais vous parler de cette sagesse qui se trouve en Dieu. De cette sagesse et qu'on pourrait appeler aussi la prudence. Ce verset nous parle de la prudence. Mais la sagesse, on l'a lu dans le premier verset, cette sagesse de considérer les jours dans lesquels on se trouve et d'avoir le comportement approprié par rapport à ces jours-ci. Et cette sagesse qui nous permet non seulement de connaître les choses, mais d'agir avec connaissance. C'est ça, véritablement, la prudence. J'ai pris mon petit dictionnaire pour avoir la définition de la prudence. Qualité, attitude d'esprit de celui qui prévoit, calcule les conséquences d'une situation, d'une action qui pourrait être fâcheuse ou dangereuse, moralement ou matériellement, et qui règle sa conduite de façon à l'éviter. Vous êtes d'accord avec la définition ? Vous en avez une meilleure ? Qui a une meilleure et veut venir la partager ? Personne, hein ? C'est bizarre. En tout cas, la sagesse dont nous voulons parler cet après-midi, c'est cette sagesse qui anticipe, la sagesse qui calcule, la sagesse qui prévoit. C'est la prudence, c'est cette sagesse qui est dans le temps. C'est-à-dire que on a cette connaissance de certaines choses qui vont se passer dans le futur. On a les yeux tellement rivés sur ces choses qui vont arriver que dans le présent, on agit. Est-ce que c'est ça la prudence ? On est d'accord ? Parce qu'on sait qu'il y a un danger qui est là, ou il y a un événement qui va se passer, on agit maintenant avec prudence. On agit maintenant avec sagesse. Et est-ce que cet après-midi, nous avons soif de sagesse, de prudence, de cette manière-là ? Romains, chapitre 13, verset 8, nous dit, je le lis pour vous, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » C'est un bon fardeau, c'est une bonne charge ça, de s'aimer les uns les autres. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes ? Peut-être que si vous ne le savez pas, vous avez besoin de faire cette prière comme ce psaume 90. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours, à savoir dans quelle époque je me trouve. Je me souviens du roi qui est le roi dans Esther, c'est Assuérus, je crois, qui a fait appel à un moment donné, il avait un problème par rapport à une situation. Il a demandé le conseil des personnes qui avaient la connaissance des temps. Vous avez fait attention à ça ? Les personnes qui avaient une sagesse par rapport au temps dans lequel ils vivaient. Bien sûr, nous, ce n'est pas de cette sagesse-là humaine dont on a besoin, mais c'est la sagesse divine. Et combien nous avons besoin dans les temps dans lesquels nous sommes d'avoir cette intelligence pour savoir que nous devons bien réagir, bien comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Je pensais à cet exemple que M. Go a donné, ça s'est passé en septembre 2014, que l'ancien président israélien Shimon Peres, qui a demandé au pape de créer l'ONU, une ONU des religions. Il dit, l'ONU aujourd'hui, on voit bien que ça c'est venu à la limite, ça ne sert plus à rien quasiment, et il dit au pape, il faudrait que vous créiez l'ONU des religions et que vous en soyez le chef. Je veux dire, si vous lisez un petit peu à l'Apocalypse, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui se précisent quand on va dans cet esprit-là. Dans quel temps nous sommes ? Nous sommes dans la fin des temps, ça c'est sûr. Et on en approche de plus en plus, jour après jour. Nous sommes proches du retour du Seigneur. Et est-ce que nous avons soif cet après-midi, comme tous les jours de notre vie, soif d'agir et de nous comporter avec sagesse ? Est-ce que nous avons vraiment cette envie ? Dans notre cœur, est-ce que notre cœur brûle après cette sagesse ? Qui est celui qui incarne la sagesse ? Si ce n'est le Seigneur. On est d'accord ? Il y avait cette histoire que j'ai trouvée intéressante pour montrer à quel point il faut qu'on aime la sagesse. C'est un jeune homme qui va voir le philosophe Socrate, vous savez. Socrate qui était bien connu pour sa sagesse, et un jeune homme qui vient le voir et qui lui fait cette question, comment il faut faire pour devenir sage? Et Socrate, il a discerné en voyant le bonhomme, il a vu que c'était un gars qui était un peu prétentieux, qui voulait ça pour s'enorgueillir, et il dit, mais viens avec moi, je vais te montrer. Alors il avance, il est tout content, Socrate lui accorde un moment pour lui partager quelque chose, alors ils arrivent au bord d'une rivière, et Socrate lui dit, mais viens avec moi, et il amène au milieu de la rivière, et ils ont de l'eau jusqu'à la taille, et il lui dit, alors qu'est-ce que tu me demandes? Eh bien, je voudrais avoir de la sagesse. Et il commence, Socrate, à poser ses mains sur ses épaules et à le mettre sous l'eau pendant 20 secondes. Puis il le ressort et il lui dit, rappelle-moi ce que tu voulais me demander. Ah, je veux la sagesse, ô divin Socrate. Et Socrate, il lui ressaute dessus et il le met sous l'eau encore plus longtemps, 30 secondes. Et le gars, il commence à se débattre, puis finalement, il le laisse sortir. Rappelle-moi ce que tu veux. Je voudrais la sagesse, Socrate. À nouveau, 40 secondes, encore plus. Le gars, il n'en peut plus. Il est totalement essoufflé quand il ressort. Et Socrate lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux la sagesse. Hop, c'est reparti. Une minute sous l'eau. Ouais, j'exagère, une minute. En tout cas, un bon moment, jusqu'au moment où le gars, il n'en peut plus. Et Socrate lui dit, qu'est-ce que tu veux? De l'air. Je veux de l'air. Je veux rien d'autre que de l'air. Je veux plus de sagesse, je veux de l'air. Et Socrate lui dit, mais quand tu chercheras la sagesse, comme tu demandes de l'air maintenant, tu pourras l'obtenir. Est-ce que nous avons dans notre cœur la sagesse, pas de la philosophie, parce que ça ne nous intéresse pas ces choses-là, la sagesse de bien comprendre les temps dans lesquels nous sommes, afin de pouvoir nous appliquer à vivre comme le Seigneur nous le demande? Eh bien, si nous ne l'avons pas, nous avons besoin de le rechercher, nous avons même besoin de faire cette prière, « Seigneur, augmente ma soif de cette sagesse ». Je voudrais que cet après-midi, au travers de plusieurs paraboles que le Seigneur a données, il nous a montré comment il fallait être prudent, comment il fallait être sage. Et ces versets que nous avons lus ne sont qu'une introduction à ce que nous allons partager. Et le premier passage se trouvera dans dans Matthieu chapitre 25, une parabole de Jésus qui est bien connue, peut-être tellement trop connue qu'on en oublie de la considérer avec cette sagesse que le Seigneur nous demande d'avoir. Quand vous regardez dans la parole, à plusieurs reprises le Seigneur parle de la sagesse, de la prudence. Et dans cette parabole, c'est ce dont il est question. Matthieu chapitre 25, verset 1er, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » On voit bien dans cette parabole, quand on lit la fin et quand on lit toute l'histoire en entier, on voit bien que l'élément central qui a fait la différence entre les 5 vierges sensées et les autres qui étaient folles, c'est cette sagesse qui a regardé ce qui pouvait se passer dans le futur. Qu'est-ce qui devait se passer dans le futur? C'est que l'époux devait arriver. On est d'accord. Et cette sagesse de ces 5 vierges a fait qu'elles se sont préparées par rapport à ces choses-là. Mais je voudrais qu'on voit ensemble qu'il faut que nous préparions jour après jour, instant après instant, seconde après seconde, au retour du Seigneur. Et que si, pendant une seconde même, on avait tendance à oublier que le Seigneur revenait, on était en danger. C'est ça que ça veut nous apprendre, cette parabole. On est d'accord? Avoir cette prudence d'agir maintenant, dans le présent, parce que le Seigneur revient bientôt. Les points communs de ces personnes, il y en a quand même quelques-uns. Elles sont toutes vierges. Et elles attendent toutes l'époux. Elles ont toutes un rôle dans la procédure qu'il y avait à l'époque, la cérémonie de mariage. Vous savez qu'il fallait, il y avait une procession nocturne qui prenait place. Il y a les vierges qui accompagnaient l'époux jusqu'à la maison des parents de la future mariée. Et après, tout le cortège partait jusqu'à la salle des noces. Et pendant qu'il y avait ce cortège, il fallait bien sûr qu'il y ait des lampes pour éclairer le chemin. C'était comme ça que ça se passait. Et puis ils arrivaient à la salle des noces et ils se réjouissaient. Alors aujourd'hui, on n'a pas tout à fait les mêmes coutumes, mais on comprend dans le contexte comment ça se passe, et on voit donc que toutes les vierges qui étaient là, qui représentent les croyants qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui ont été purifiées par le sang de Jésus, qui ont été sauvées à un moment donné, et qui ont pris place dans la mission que Dieu a prévue pour chacun d'entre eux sur la terre, ça c'est ce que représentent les vierges. Mais elles ont toutes les lampes, elles ont tout ce témoignage, nous avons tous un témoignage à rendre pour le Seigneur. Nous devons tous avoir nos lampes allumées. Mais vous avez remarqué que le point commun encore, c'est qu'elles s'endorment toutes. Elles s'endorment toutes. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Qui dit que c'est bien? Qui dit que c'est pas bien? Qui est neutre? Il y a beaucoup de neutres, hein, bizarrement. On verra plus tard la réponse, parce que ça se fait partie des différences. En tout cas, elles se sont toutes endormies. Et à la limite, le maître tardait, la nuit commençait à pointer le bout de son nez, même à être, c'était au milieu de la nuit à un moment donné, comprend qu'il puisse être endormi. Mais elles sont toutes réveillées par une voix. Elles entendent une voix, ça parle de cette sensibilité que nous pouvons avoir au Saint-Esprit, et je me pose... Déjà, rien qu'en lisant ce passage, je me pose la question, est-ce que nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit? Quand c'est la dernière fois que nous avons ressenti dans notre cœur le Saint-Esprit nous parler? Avec clarté, avec vérité, pas cette pensée que est-ce que c'est Dieu qui me parle ou pas, et du coup je fais certaines choses par la foi alors que Dieu ne m'a pas parlé du tout. Vous savez, combien de personnes ont arrêté les médicaments, soi-disant par la foi, et ils se sont retrouvés pire que dans la condition dans laquelle ils étaient avant? Parce que ce n'était pas la voix du Saint-Esprit. On a besoin de cette voix du Saint-Esprit qui est claire, qui vient éclairer notre être. Et quand on prend la décision, on sait que ça vient de Dieu. Et Dieu confirme sa parole. Quand c'est la dernière fois que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit? En tout cas, elles ont toutes entendu la voix du Saint-Esprit. Mais il y en a pour qui c'était trop tard. Et il y en a qui ont réagi de la bonne manière, se sont réveillés, ils ont vérifié les réserves, ils ont remis un peu plus d'huile s'il a manqué, et ils sont partis à la rencontre de l'époux. Et combien j'aspire à ce que tous ensemble, ici dans cette salle, nous puissions faire partie de ce groupe-là. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait trois catégories de personnes, il n'y en avait que deux. Il y avait celles qui étaient prêtes et celles qui ne l'étaient pas. Soit nous sommes dans celles qui sont prêtes, soit nous sommes dans celles qui ne sont pas prêtes. C'est comme ça. C'est pas moi qui... C'est pas avec moi qu'il faut s'arranger, c'est avec la parole. C'est avec le Seigneur lui-même. Et combien je voudrais que nous soyons tous prêts au retour du Seigneur. Et il y a des différences qui sont tellement incroyables, qui nous font comprendre que les sages, si elles sont appelées les sages, c'est le même mot que prudent dans le grec, et on comprend pourquoi elles ont manifesté cette prudence. Parce qu'elles avaient la connaissance, justement, comme je l'ai dit, que l'époux pouvait revenir d'une minute à l'autre. On leur avait dit, allez à la rencontre de l'époux, mais l'époux a tardé. Est-ce que ce n'est pas un peu le cas du Seigneur qui tarde à revenir? Est-ce que le Seigneur est en retard? On ne va pas dire ça comme ça. Hein. Par contre, voilà, il tarde, il n'est pas en retard. Il est parfaitement dans les temps, mais il tarde pour que le maximum de personnes puissent parvenir à la connaissance de la vérité, puissent être sauvées. Et combien nous sommes reconnaissants quand nous pensons aux personnes dans nos familles qui ne sont pas au Seigneur. Nous désirons qu'elles soient sauvées. Et nous, merci Seigneur parce que tu tardes, mais merci Seigneur parce que tu reviens bientôt quand même. Et nous voulons avoir cette connaissance qui fait que nous savons qu'il va revenir d'une minute à l'autre. Alors, parce que j'ai cette connaissance par rapport à un événement du futur, maintenant, aujourd'hui, j'agis. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces vierges? Ben, elles ont eu la sagesse de préparer avant tout ce qu'il fallait. Elles avaient la connaissance des vendeurs. Vous avez vu au moment où les folles ont demandé « Mais prêtez-nous de votre huile !» Les sages ont dit « Non, non, allez chez ceux qui en vendent !» Ça veut dire qu'elles connaissaient bien la route. Elles étaient déjà allées chez ceux qui en vendent. Ça veut dire qu'elles avaient, pour nous aujourd'hui, ça veut dire que c'est des personnes qui ont la connaissance de l'endroit où on fait le plein de manière spirituelle. Est-ce que vous connaissez cet endroit? C'est dans quelle rue de Toulouse que ça se trouve, ça? Vous n'avez pas l'adresse? Est-ce que la rue Saint-Guilhem, c'est la bonne adresse? Ou est-ce que c'est partout? Partout où quelqu'un cherche le Seigneur avec vérité, avec sincérité, que partout où quelqu'un a une communion véritable avec son Dieu, il peut faire le plein de réserves, il peut être rempli de cette huile qui représente le Saint-Esprit, il peut acheter de manière gratuite, c'est quelque chose, parce que quelqu'un a déjà payé, il peut être rempli du Saint-Esprit. Partout où quelqu'un le fait avec vérité. Elles avaient cette connaissance déjà, et elles l'ont utilisée à bon escient, parce que du coup elles ont fait des réserves. Quand on parle de faire des réserves, ça veut dire qu'elles ont pris leur vase, elles ont vérifié que leur vase, il n'était pas percé. Et moi, souvent, je me pose la question. Souvent, on dit, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Mais quand on remplit un vase qui a un trou quelque part, on peut le remplir pendant des heures et des heures, à un moment donné, il sera vide. Est-ce qu'on n'a pas besoin, pour être prêt, de dire, Seigneur, tu vois ce trou qui est là dans ma vie, viens le boucher. Il n'y a que toi qui peux le faire. Je n'ai que ma misère à te présenter. Je n'ai qu'un vase totalement brisé à te présenter. Peut-être qu'il y a les épreuves de la vie en ce moment qui nous perturbent tellement, qui nous font tellement mal, qu'il y a des trous qui se sont formés dans notre vase. Est-ce que le Seigneur n'est pas celui qui vient réparer les brèches? Est-ce que le Seigneur n'est pas celui qui vient nous donner avec abondance, nous guérir et puis nous remplir de manière à ce qu'on déborde? Oui, voilà notre Dieu. Voilà le Dieu en lequel nous croyons. Et je reviens à ce sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Je pense, moi, que le sommeil dont elles ont été saisies à ce moment-là n'était pas forcément un mauvais sommeil. Souvent, on dit, ça représente l'Église qui dort. Ça veut dire qu'à la fin des temps, tous les croyants seront endormis. Je ne suis pas persuadé que ça soit la bonne idée, parce que quelqu'un qui est totalement prêt et qui, pendant un temps, vit dans le repos parce que la nuit tarde, parce que la nuit commence à arriver, parce que l'époux tarde, parce que les ténèbres sont là, c'est difficile, et à un moment donné, le Seigneur nous permet d'être dans son repos. Mais quand on est prêt, qu'est-ce que ça implique? Je vois plutôt que le sommeil de ces folles était totalement fou, justement, parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Pendant qu'elles dormaient, elles auraient mieux valu, le temps qu'elles ont dormi, il valait mieux qu'elles emploient à aller acheter de l'huile à ce moment-là. Les autres pouvaient dormir tranquillement parce qu'elles étaient près de l'époux. S'il arrivait, il suffisait qu'elles aillent à sa rencontre, c'est ce qui s'est passé. Le résultat, en tout cas il est là, c'est qu'elles sont rentrées dans la salle des noces. Et combien je voudrais que nous rentrions tous dans cette salle des noces, ce moment merveilleux où le Seigneur viendra nous chercher. Les folles ont manqué de sagesse parce qu'elles ne se sont pas préparées, parce qu'elles n'ont pas eu l'intelligence de voir les temps dans lesquels elles se trouvaient, l'imminence de l'arrivée de l'époux qui était là, et elles n'ont pas fait attention à ces choses, mais si on va plus loin, elles ont même méprisé l'époux, mépriser la mariée, mépriser les coutumes. La coutume, c'était qu'il y ait ces lumières qui accompagnent le cortège. Et si ces personnes se sont retrouvées là, avec les lampes qui étaient en train de s'éteindre, et imaginez un instant, parce que ça, on n'arrive pas à le saisir, c'est des coutumes des juifs. Imaginez, le jour du mariage, vous confiez vos alliances à quelqu'un qui vous est très cher, et au moment où ça arrive, que vous allez vous échanger les alliances, la personne dit, mais c'est où les alliances? Elle est passée où? Je les ai oubliées et malheureusement j'ai pris l'avion ce matin, elles sont chez moi à Lille. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vont dire les mariés dans cette situation? Bon, ça ne va rien leur faire de particulier, ou ça va briser peut-être leurs rêves les plus fous de se dire que la cérémonie est totalement gâchée à cause de cette chose-là qui s'est passée. Est-ce que la personne qui était en charge d'amener les alliances, elle n'a pas méprisé quelque part l'importance de sa mission, méprisé les personnes qui étaient là? Peut-être que c'était leurs amis, mais elle les a méprisés dans les faits. Elle a beau dire « mais non, je pense à vous, je suis avec vous, je vous aime », dans les faits, elle les a méprisés. Combien de chrétiens sont dans cette réalité de dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, je veux être prêt », Et puis, dans le présent, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils ne prennent pas soin de lire la parole et de savoir quelle est la coutume, entre guillemets. Parce qu'il y avait tout un processus pour les cérémonies à l'époque. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a laissé sa parole pour savoir comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est la fête, les noces de l'agneau, etc. Comment on fait pour y entrer? Le Seigneur nous a laissé tout ce qu'il faut dans sa parole. Qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Elles sont dans l'insouciance, elles s'endorment, elles sont dans la désorganisation parce qu'au moment où il faudrait qu'elles s'approchent, c'est le moment où elles choisissent de s'éloigner. Vous avez vu? C'est là le moment où elles devraient aller vers l'époux, qu'elles s'en vont de l'autre côté acheter de l'huile. Et le résultat, c'est que le Seigneur leur dit « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Combien ce sont des paroles qui doivent nous faire réfléchir encore cet après-midi. « Je ne vous connais pas. » Est-ce que vous pouvez dire « Seigneur, mais moi je te connais. » Mais ça ne suffit pas de connaître le Seigneur. Il faut que lui nous connaisse. Et comment il nous connaît, si ce n'est en ayant cette certitude dans notre cœur que nous avons cette relation avec lui de tous les instants, de toutes les minutes, de toutes les secondes. En tout cas, le résultat, c'est qu'elles sont restées dehors. Nous savons, nous, aujourd'hui, que le Seigneur est à la porte. Est-ce que Dieu est en retard? Nous avons dit que non, il n'est pas en retard, il est parfaitement à l'heure. Et nous ne voulons pas être trouvés manquant d'huile, manquant de réserve. Nous voulons, au contraire, être trouvés remplis du Saint-Esprit, remplis de paix, remplis d'amour, remplis de joie, parce qu'on aura fait des réserves tant qu'il est temps. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui encore, il est temps. Aujourd'hui, dans les moments que nous passons maintenant, il est temps de refaire des réserves. Je ne sais pas où c'est que vous en êtes, mais je sais que quel que soit l'état où vous en êtes, c'est aujourd'hui encore l'occasion de faire des réserves. C'est aujourd'hui, dans ces moments que nous passons, l'occasion de remplir nos vases et de dire « Seigneur, oui, je veux avoir cette sagesse pour comprendre que ton retour est proche, mais comprendre que maintenant, je dois me veiller sur ma vie, veiller sur mon vase, veiller ce qui n'est pas de trou dans mon vase, veiller à faire le plein, veiller sur la lumière, à ce qu'elle soit brillante, qu'elle ne soit pas cachée sous le boisseau. Vous savez que le boisseau, ça représente toutes ces charges de travail, tous les soucis de la vie qui peuvent nous empêcher d'avoir ce témoignage qui honore Dieu. De la même manière, vous savez, Jésus parle, dit « la lumière, il ne faut pas la mettre non plus sous le lit ». Le lit, ça représente la paresse. Il y en a qui cachent leur témoignage sous le lit, sous la paresse. Il y en a, c'est sous le boisseau, sous le travail. Il y a les deux. Mais nous ne voulons pas cacher la lumière que le Seigneur a mise dans notre cœur. Nous voulons la faire briller. La sagesse de se préparer au retour du Seigneur, la sagesse de prévoir la tempête. Matthieu, chapitre 7 et le verset 24. Deuxième parabole qui est tellement bien connue aussi. Matthieu 7, verset 24, c'est la parabole des deux personnes qui bâtissent une maison. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Les points communs. Vous savez, il est question là cette fois-ci d'un homme qui est prudent et un homme qui est insensé. Et quand on regarde dans le grec, c'est exactement les mêmes mots que les vierges folles et les vierges sages. C'est les mêmes mots. C'est-à-dire que la sagesse et la prudence, dans ces passages-là, c'est la même chose. La sagesse de prévoir la tempête. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas dit qu'il y allait avoir des tempêtes? Est-ce que le Seigneur ne nous a pas prévenu? Est-ce qu'il y a au moins un verset qui nous dit quelque part qu'on va s'attendre à certaines épreuves? Au moins un. Et je sais qu'il y en a plus qu'un. Moi, j'ai par exemple ce verset. Vous aurez des bénédictions dans le monde, mais prenez courage. C'est pas ça, non? Ça, c'est la version parole positive. Mais c'est pas là, il ne faut pas la lire, celle-là. Vous aurez des tribulations dans le monde. Est-ce que les tribulations, on peut l'illustrer comme une tempête? Ça revient au même. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais Jésus ne s'arrête pas là. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Heureusement qu'il a dit ça. Hein C'est quelque chose qui nous rassure. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tempêtes à venir. Et voilà pourquoi quelqu'un qui est prudent va avoir cette sagesse de prévoir la tempête et de faire ce qu'il faut encore. Parce que dans les deux cas, les personnes savaient qu'il allait y avoir une tempête. Mais il y en a un qui a choisi de ne pas être intéressé par cette information plus que ça. Il a peut-être trouvé un beau coin au bord de la plage, je ne sais pas, au bord de la Méditerranée. Il a trouvé un coin sympathique où il pouvait construire sa maison avec une jolie vue, mais c'était sur le sable. Tandis que l'autre a dû aller un peu plus sur les hauteurs, mais sur un rocher solide. Et quand est arrivée la tempête, ben l'un a été totalement dévasté, tandis que l'autre est resté gardé. Les deux ont construit leur maison. Les deux ont fait la même chose. Les deux avaient certaines choses comme ça. La tempête est venue pour les deux. Il n'y a pas de différence entre celui qui est bon, celui qui est méchant. Les tempêtes, elles sont là de toute manière. Mais par contre, celui qui a construit sa maison sur le roc, il a échappé au danger. Est-ce que, jour après jour, nous construisons notre maison sur le roc? Jésus l'a bien expliqué ce que ça veut dire. C'est la personne qui met en pratique, qui n'a pas seulement la connaissance, mais qui met en pratique. Dans le présent, est-ce que je construis ma maison sur le roc? Ça veut dire, est-ce que l'action que je fais dans ce moment, est-ce qu'elle contribue à mettre la brique sur le roc ou la brique, je suis en train de la poser sur le sable? Vous savez, à chaque fois qu'on réfléchit, chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on agit, c'est comme si on prenait une brique et qu'on la posait soit sur le roc, soit sur le sable. Est-ce que le tas de briques qui se trouve sur le roc est plus important que celui qui se trouve sur le sable? Ou est-ce que c'est le contraire? Et si c'est le contraire, ben on a besoin d'aller chercher ces briques qui sont là. Ah, j'ai fondé ma vie sur peut-être sur l'argent, sur le fait que je pensais qu'il fallait avoir une position sociale. Je pensais que la famille, le fait d'avoir une famille, c'était merveilleux. Et c'est merveilleux, mais j'ai fondé ma vie sur ça. Et la tempête est venue et a tout ravagé. Je vois dans ma famille des exemples de personnes qui ont construit leur vie, mais qui n'ont pas mis Dieu en tout premier dans leur vie, et qui ont eu une bonne situation, qui ont une famille, des enfants, etc. D'un jour à l'autre, tout a été dévasté. Et je vois l'exemple de personnes qui ont suivi finalement. Ah, ça ne frappait pas les regards. Personne ne pouvait dire s'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans leur cœur. Mais Dieu, lui, le voit. Et quand la tempête est venue, la maison l'a tout juste sourcillée. Parce que le Seigneur, il est fidèle dans ses promesses. La prudence de prévoir la tempête. Cet après-midi, je ne sais pas si vous vivez dans une tempête, peut-être maintenant vous y êtes. Et peut-être maintenant vous êtes ébranlé parce que vous avez la maison qui est sur le sable. Mais ce qui est merveilleux dans cette parole, c'est que le Seigneur nous dit, si tu mets en pratique la parole, ta maison elle va être déplacée sur le roc et je vais te protéger. C'est-à-dire que cet après-midi, il y a de l'espoir encore pour tous ceux qui traversent une tempête. Mais ça veut dire aussi que pour nous tous qui ne sommes pas dans cette tempête-là, nous avons intérêt à être fidèles avec le Seigneur et à marcher dans l'obéissance de sa parole. Et je finis avec cette troisième pensée, la sagesse de prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Et on revient dans Matthieu, au chapitre 24 cette fois-ci, juste avant la parabole des vierges folles et des vierges sages, il y a cette autre parabole. Et on voit bien que c'est vraiment cette pensée que le Seigneur veut donner à ses disciples et à chacun d'entre nous cet après-midi. Matthieu 24, verset 45, il est dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quel est le serviteur fidèle et prudent ? Voyez qu'encore une fois, le Seigneur insiste sur cette prudence. La prudence de maintenant, aujourd'hui, parce que je sais que le Seigneur revient, prendre soin de ce qu'il m'a confié. Est-ce que c'est important pour vous de prendre soin de ce que le Seigneur vous a confié? Ou est-ce que vous considérez que ce que vous avez, c'est vous qui l'avez gagné? à la sueur de votre front, c'est ce que vous avez sur votre compte en banque, c'est parce que vous avez travaillé avec acharnement. On peut le comprendre quelque part, par rapport à quelqu'un qui est paresseux encore, et qui se croise les mains et qui dit « Ah, mais c'est bizarre que mon compte en banque, il ne s'augmente pas tout seul. » On comprend que quelqu'un qui travaille mérite son salaire, c'est biblique. Mais est-ce que vous dites « Tout ce que j'ai, c'est à moi » Ou est-ce que comme David, qui au moment où il a dit cette parole, il était un roi qui avait beaucoup de richesses, beaucoup de prestige, beaucoup de gloire, il a dit « Tout ce que j'ai, Seigneur, ça vient de toi. Tout me vient de toi. Tout ce que je peux te donner, ben c'est toi qui me l'as déjà donné avant. Parce que toute la terre t'appartient. Que faisons-nous de ce que Dieu nous a confié ? Qu'est-ce qu'il nous a confié, on peut se dire. Qu'est-ce que le Seigneur nous a confié ? Il nous a confié notre vie, déjà. Que faisons-nous de notre vie ? Est-ce que nous l'utilisons pour nous ? Est-ce que nous l'utilisons pour lui ? Mais il ne nous a pas confié que notre vie. Il nous a confié tout ce que nous pouvons posséder aussi. Qu'est-ce que nous en faisons ? Il nous a confié notre famille, même si notre famille s'agrandit. Le Seigneur nous l'a confié, mais ça veut dire qu'il y a plus de responsabilités. Vous comprenez ? C'est une joie, c'est merveilleux, mais ça demande aussi plus de responsabilités. Et vous savez, depuis qu'on a eu la petite, je prie, je dis « Seigneur, je veux qu'elle t'appartienne ». C'est la première chose qui me vient quand je prie pour mon enfant, mes enfants d'ailleurs, tous. Je veux qu'ils t'appartiennent, qu'ils te connaissent. Qu'est-ce que nous faisons ? Comment nous occupons-nous de ce que Dieu nous a confié ? Les points communs entre ces personnes, c'est que tous les deux sont des serviteurs. C'est dit quelque part des dispensateurs ou des gestionnaires ou des économes. Il y a différents mots qui sont là pour traduire la même pensée. Ce sont des personnes qui gèrent les biens du maître. Mais ce sont les biens du maître. Sur quoi avons-nous autorité ? Le Seigneur peut-être nous a mis l'autorité sur juste notre personne. Et vous savez, ça suffit, hein ? C'est quelque chose qu'il nous a confié et qu'il faut utiliser à sa gloire, tout simplement. Pour les deux, le maître va revenir, mais il va y avoir des différences. Le serviteur prudent, il va agir avec cette sagesse de réfléchir qu'il faut prendre soin. Le maître, il tarde à venir. Le maître, il tarde à venir. Ça, il y a les jours qui passent, les années qui passent. C'est pas grave. Je veux être trouvé en train de prendre soin de ce que le Seigneur m'a confié. Est-ce que nous avons cette sagesse cet après-midi ? Est-ce que nous avons cette sagesse ? Est-ce que nous faisons comme lui ? Nous sommes fidèles ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il donnait la nourriture au temps convenable. Est-ce que nous donnons la nourriture autour de nous ? Qu'est-ce que nous donnons autour de nous ? Est-ce que nous donnons, je pensais à cette parole, à ces personnes qui autour d'eux peut-être propagent toutes sortes de mauvaises paroles, qui propagent autour d'eux des pensées mauvaises, qui sont là à critiquer, qui sont là à accuser les uns et les autres, à juger. Est-ce que c'est ça que nous voulons transmettre autour de nous ? Est-ce que ça ne s'apparente pas à cette personne, ce méchant serviteur ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il battait ses compagnons. Est-ce que ce n'est pas exactement ça dont il est question ? Quand nous disons une parole méchante, quand nous jugeons quelqu'un, quand nous blessons quelqu'un par notre parole, c'est exactement ce que le Seigneur remet en question là. Mais le serviteur fidèle, il veille sur sa parole. Il veille sur la communion qu'il peut avoir, la communion fraternelle, sa communion avec le Seigneur d'abord, mais sa communion fraternelle aussi. Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous, parce que le Seigneur sait très bien que des fois les personnes ne veulent pas être en paix avec nous. Mais nous, on veut être en paix avec tous les hommes. Vous êtes d'accord ? Et si on a du mal cet après-midi, si quelqu'un se trouve dans une situation où il a du mal avec une personne en particulier, ne laissez pas l'imprudence vous faire rester dans cette situation, mais ayez la sagesse de dire « Seigneur, j'ai compris que tu veux que je prenne soin de ce que tu m'as confié. » Prendre soin de ce que tu m'as confié, c'est aussi prendre soin de ma relation fraternelle avec mes frères et sœurs. C'est aussi ça. « Seigneur, je veux être trouvé à ton retour, fidèle, prudent. » agissant avec vérité, agissant avec intégrité. Le méchant serviteur, il bat ses compagnons, il s'énivre, et ça veut dire qu'il fuit ses responsabilités dans les plaisirs du monde. Est-ce que des fois, nous, on n'est pas dans cette attitude de fuir nos responsabilités? Ah, il faudrait qu'on puisse être là à la réunion de prière pour combattre le bon combat de la foi, mais je fuis mes responsabilités. Je reste dans ma chambre à regarder peut-être n'importe quoi, et je reste avec des amis ou toutes sortes de personnes de mauvaise compagnie, plutôt que d'être dans la réunion de prière. Je ne vous demande pas de venir mardi à la réunion de prière, ce n'est pas ça. Mais je vous dis de réfléchir. Est-ce que ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande? Des fois, nous fuyons nos responsabilités. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité que de prier pour celui qui est dans le découragement? Celui qui est à côté de nous, qui est dans la souffrance. Est-ce que ce n'est pas notre responsabilité que d'aller lui parler pour l'encourager? Est-ce que ce n'est pas notre responsabilité que de l'encourager par des paroles de grâce? Est-ce que ce n'est pas notre responsabilité ou c'est que la responsabilité de Jonathan, de moi, de M. Go, des anciens, peut-être? Quand le Seigneur parle de ses serviteurs, comprends bien que c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes les serviteurs entre les mains du Seigneur. Est-ce que nous voulons être trouvés fidèles et prudents ou être trouvés méchants? Tout homme prudent agit avec connaissance. C'est un simple verset, celui qu'on a lu dans les Proverbes. Mais combien je trouve que la portée de cette vérité est tellement importante. Tout homme prudent agit avec connaissance. Il ne se contente pas de connaître, il agit avec connaissance. Cet après-midi, nous avons rappelé plusieurs choses que nous devons connaître. Mais maintenant, il ne tient qu'à nous de décider quand nous allons agir en conformité à ce que nous connaissons. Voilà pourquoi nous allons nous recueillir maintenant et demander la grâce de Dieu sur ces moments. Oui, nous voulons avoir la sagesse de nous préparer au retour du Seigneur. Nous voulons avoir la sagesse de prévoir la tempête. Nous voulons avoir la sagesse de prendre soin de ce que le Seigneur nous a confié. Combien nous avons besoin de cette sagesse? Alors que nous allons partager le pain, le vin, encore une fois, cette table qui nous rappelle le sacrifice de Jésus. L'apôtre Paul nous invite à le faire en mémoire de lui, en mémoire de sa mort, annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous voulons avoir les yeux fixés sur la croix, mais aussi les yeux fixés sur le retour du Seigneur. Cet après-midi, l'occasion nous est donnée de faire le point dans notre vie, encore une fois, parce que le Seigneur ne se lasse pas de nous redire les mêmes choses pour nous permettre d'être bénis, pour nous permettre d'être prêts, si nous ne le sommes pas, ou si nous ne le sommes plus. Le Seigneur nous tend la main encore une fois cet après-midi. Et cette occasion nous est donnée, pendant que nous réfléchissons à ce sacrifice merveilleux qui nous a ouvert l'entrée dans ce royaume céleste. Combien, quand nous considérons le privilège que c'est quelque chose de merveilleux. Quelle grâce de savoir que nous pouvons participer aux noces de l'agneau, d'être pour l'éternité dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous qui sommes que des pécheurs, le Seigneur nous fait cette grâce. Mais il nous donne aussi cet avertissement. L'homme prudent agit avec connaissance. Aujourd'hui, agis avec connaissance. La connaissance que tu as, mets-la en pratique. La connaissance de la parole que tu as, mets-la en pratique. Sois cet homme prudent, cet homme rempli de sagesse, qui a la connaissance des temps dans lesquels il se trouve. Si tu n'as pas cette sagesse, demande-la au Seigneur qui te la donnera. Mais deviens ou continue d'être cet homme prudent qui bâtit cette maison qui a la gloire du Seigneur, qui est fondée sur le roc, fondée sur cette parole inébranlable. Comme ce matin, M. Go le rappelait, cette parole qui ne passera jamais, la terre et le ciel passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Elle est éternelle, elle a une puissance de vie incroyable. Et cet après-midi, il suffit que nous l'accueillions dans notre cœur et qu'avec foi, nous la mettions en pratique, pour que la vie de Dieu se propage dans notre vie et que nous puissions connaître le repos et le calme malgré la tempête. Cet après-midi, quelqu'un est dans la tempête, alors viens dans la présence de Dieu. Repends-toi, demande le secours à ton Seigneur et il viendra te secourir parce qu'il t'aime. Et pour nous tous qui nous sommes engagés dans les eaux du baptême, cet après-midi au travers de ce repas, demandons au Seigneur qu'il augmente encore cette sagesse dans notre cœur, afin que nous ayons les yeux fixés sur son retour. Oui, merci, merci pour la croix. Merci pour le sacrifice, merci pour le privilège, merci pour la grâce, merci pour les noces de l'agneau. Mais Seigneur, je veux avoir les yeux fixés sur ton retour cet après-midi et tous les jours de ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni.